Nous poursuivons l'après-midi sur cet espace forum et nous poursuivons aussi notre échange autour du pain, sur le pain vivant. Il y a une, je ne sais pas si vous avez assisté, Diego, à l'échange qui a eu lieu voilà, sur la fin. Et c'est vrai que c'était une belle introduction parce qu'on a vraiment, avec Adrien Farano, parlé de pain vivant. Alors, Diego Laporal, vous êtes donc boulanger installé à Caen. Et votre boutique s'appelle Pain Vivant. Vous êtes installé depuis 4 ans et vous êtes, vous, alors vous n'êtes pas boulanger, je dirais, de formation initiale, vous êtes cuisinier. Et vous n'avez pas de micro, tiens, pourquoi ? Mais pourquoi donc ? Parce que ça a marché beaucoup mieux avec un micro. Hein.
C'est bon, là.
Voilà. Il marche, il suffit juste de parler dedans. Donc, cuisinier de formation. Et vous avez exercé pendant 11 ans dans la restauration étoilée. Qu'est-ce qui vous a tout d'un coup amené à vouloir migrer vers la boulangerie ?
En fait, ce qui m'a amené à faire du pain, c'est qu'au travers de mes expériences en cuisine, un peu partout en France, il y avait souvent soit un boulanger, soit un cuisinier qui était prédestiné à faire le pain au sein du restaurant. Et quand j'ai pris la place de sous-chef dans ce restaurant étoilé de Caen, j'ai voulu mettre ça en place, tout simplement.
Et le fait de toucher la matière vous a donné envie de...
C'est ça, en fait. Moi, je partais un petit peu en terrain inconnu, donc c'était très intéressant de découvrir, d'apprendre ce que c'était que des blés anciens, du levain, de la fermentation, en fait, tout simplement, quoi. Et c'est au travers d'essais de pratiquer qu'on se forme et qu'on découvre un petit peu et qu'on comprend surtout en fait comment ça marche la fermentation, quoi.
La cuisine, ça a été quelque chose d'inné chez vous, enfin d'inné, le mot est un peu fort, mais en tout cas c'est quelque chose qui est apparu comme une certaine logique dans votre parcours quand vous étiez jeune.
Non, pas du tout. Moi, j'étais j'étais pas du tout destiné à faire de la cuisine, mais plus j'étais une grosse passion pour le ski. Je suis breton d'origine et en fait j'ai trouvé un apprentissage à Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes. Et c'est là que j'ai commencé la cuisine, tout simplement, quoi.
Un peu par hasard.
Voilà, c'est ça, tout à fait.
Donc, voilà, vous avez fait un joli parcours, parce que maison étoilée.
Donc, tout à fait, pendant 11 ans, un petit peu partout en France, dans pas mal de restaurants étoilés. Et il y a 7 ans, j'ai posé mes valises à Caen avec ma femme, où on a eu notre premier enfant.
Voilà. Ce qui vous a amené à rester, à vous installer, et à vous dire qu'il fallait décider d'un avenir professionnel assuré.
Voilà, tout à fait. En fait, j'ai commencé à faire du pain uniquement pour le restaurant. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à en faire sur commande pour des particuliers. Alors au début, je me suis construit un four à bois dans mon jardin.
Okay.
J'en faisais 3 fois par semaine uniquement sur commande. Et ça a duré 1 an parce que je ne savais pas du tout où j'allais. Je sais le temps de voir si le projet que j'avais d'arrêter la cuisine entièrement et me concentrer uniquement au pain était viable. Donc ça m'a permis d'expérimenter, de fidéliser entre guillemets un petit peu une petite clientèle, quoi.
Clientèle, c'était vos amis au départ, un bouche à oreille,
voilà,
le restaurant.
Ouais. Étant ancré un petit peu dans la restauration cannaise, ouais, c'était un petit peu plus facile, surtout pour démarcher auprès d'autres restaurateurs, pour voir si mon pain plaisait, si la démarche plaisait, et ensuite prendre une décision, quoi.
Et lorsque vous avez su que cette démarche plaisait, qu'est-ce que vous avez entrepris pour vous installer ?
Eh ben, j'ai fait une rupture conventionnelle, en fait, comme ça me permettait de voir sur 2 ans. Sans forcément prendre de salaire, et plutôt mettre de la trésor et voilà, monter le business comme il fallait, sereinement, en n'ayant pas le risque financier et la pression de faire du chiffre. Et au bout de 2 ans, en fait, au bout de la première année, je me suis installé dans un local un peu en périphérie de Caen, dans un hangar, où il y avait, donc moi j'ai monté un four à bois, un premier petit four à bois. Il y avait un torréfacteur, un céramiste et un pâtissier. Et en fait, on a mutualisé ce lieu pour créer une dynamique de petits artisans qui produisaient sur place sans forcément avoir de boutique. Et en même temps, ça nous permettait, d'un point de vue financier, de diviser les charges, quoi.
Comment est-ce que vous avez vendu dans un premier temps ?
Alors, on faisait les marchés. On avait chacun une espèce de petit corner, on va dire, dans ce hangar, et sinon sur les marchés.
Et ça a fonctionné tout de suite ?
Ça a fonctionné tout de suite. Ça a duré 1 an. Les 6 premiers mois, je suis resté tout seul. Ensuite, j'ai embauché une première personne. Ensuite, une deuxième personne. Et en fait, Pain Vivant a fait que grandir. Et au bout de... Donc, je suis resté 1 an et demi là-bas et il fallait trouver un autre local. Je voulais me rapprocher plus du centre-ville de Caen, mais je voulais quand même préserver le four à bois et j'avais le projet d'y installer aussi un moulin pour qu'on fasse notre propre farine au sein de la boulangerie. Et donc, j'ai trouvé un local qui s'y prêtait. Alors, c'est du côté de la gare de Caen, mais je pouvais réunir tous ces deux points en fait qui étaient essentiels pour moi, quoi.
Comment est-ce que vous avez réfléchi la manière de faire le concept du pain, justement de ce pain vivant? J'imagine que c'est soit une fermentation longue, des farines sélectionnées.
Ben en fait, quand, de mon expérience de cuisinier, on se démarque quand on a une cuisine d'instinct. Je parle beaucoup l'instinct. Quand on a une cuisine d'instinct, c'est plus de, on va voir tel chef parce qu'il cuisine ça, parce qu'il a un style. Et moi, ce que je trouvais dommage un petit peu dans le pain, c'est qu'on ne retrouvait pas en fait cette démarche de culture, de baie de pays, de terroir, qui en fait est très très vaste et très. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire quand même en France avec ces baies-là, quoi.
Vous aviez envie, je dirais, de vous ancrer encore plus profondément en ayant un blé local.
Voilà, c'est ça, non seulement un blé local, mais aussi utiliser du beurre, du lait, toujours en local, en bio, et vraiment faire travailler des petits agriculteurs qui en ont besoin et qui se battent en fait au quotidien pour préserver leur terroir et faire revivre ou faire vivre une économie locale aussi en même temps, quoi.
Vous avez donc initié une démarche pour aller rencontrer des agriculteurs,
voilà,
et pour qu'ils cultivent pour vous.
Sur la partie des blés, ouais.
Tout à fait. Des blés, ouais.
J'ai fait une sélection de semences et au fil des années, on a fait une sélection en fait qui s'intégrait très bien aux terres normandes. Et depuis 4 ans, là, ça fait 2 ans maintenant qu'on est sur nos récoltes.
Comment est-ce qu'elle s'est faite cette sélection? Pourquoi est-ce que vous avez choisi vos variétés?
Parce que c'est celles qui se sont le plus acclimatées aux terres.
Ok.
Et qui avait un rendement assez suffisant pour pouvoir les cultiver. Et
vous êtes fait accompagner par des...
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a Jocelyn qui est paysan boulanger meunier, qui donc connaît déjà bien son métier et qui m'a aiguillé là-dessus. Ouais.
Vous avez fait des essais?
Tout à fait.
Ok, pour voir comment se développait. Ouais. Vous avez aussi joué, j'imagine, sur une certaine rentabilité, enfin, je veux dire, sur une certaine productivité, pardon.
Voilà, c'est ça. Il faut réussir à allier les deux, en fait. Parce qu'avoir du goût, avoir des beaux blés qui sont jolis, c'est bien, mais il y a aussi le point de vue rendement qui joue aussi, quoi.
Alors, une fois qu'on a cultivé, qui moissonne, qui transforme?
Ça, c'est ce qu'on appelle des trieurs à façon. Il y a des gens qui viennent en fait, qui se déplacent et qui moissonnent pour vous, qui trient, qui stockent.
Donc c'est vous qui payez ça ou?
Non, ça non, c'est l'agriculteur. Voilà.
À qui vous achetez ensuite?
Moi j'ai fourni les semences. Oui. Il les cultive, il les fait moissonner, trier, et derrière je rachète le blé.
Ok. Et le blé, vous le faites transformer dans un moulin ou vous avez vous-même construit?
Je le fais transformer dans mon moulin.
Ah donc vous avez construit un moulin?
J'ai Samuel Poilan.
Oui. Mais en tout cas oui, quand je dis vous avez construit, vous avez fait construire un moulin.
Voilà, tout à fait. Ok. Donc on a le moulin au sein de la boulangerie qui est visible par les clients et on fait ma farine la veille pour le lendemain. On utilise des farines la plus fraîche possible en fait, pour préserver au mieux tous les nutriments et tous les minéraux qu'il y a dans le grain de blé.
Donc vous commencez à quelle heure le matin?
Moi personnellement,
oui.
4 heures.
Okay.
Mais j'ai deux gars, Maxime et Paul, qui commencent à 1h30.
Ouais,
voilà, pour mettre le four en chauffe, pour préparer la viennoiserie.
Ah, parce que oui, vous faites autre chose que du pain. Mais alors, juste, je fais une petite parenthèse. On a aussi évoqué ça depuis hier, début du salon. Comment est-ce qu'on attire aujourd'hui des jeunes ou moins jeunes dans un métier que l'on qualifie comme difficile? Se lever à 1h30 du matin, c'est pas tout à fait le rêve de beaucoup. Il y a encore des gens qui sont séduits par ça, qui ont envie cette envie-là.
Je pense que les jeunes qui sont de formation, qui ont toujours fait ça, qui ont commencé un apprentissage à 15 ans en boulangerie, ils ont toujours été habitués à ça. Mais c'est vrai que depuis quelques années, je pense que ça a un peu changé. Les rythmes ont changé aussi. Peut-être que les gens sont un petit peu trop idéalistes, enfin idéologistes, sur ce point de vue-là. Oui, mais après, si on veut faire... moi, j'ai fait le choix de travailler comme ça parce que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient prêts à faire ça en ayant un concept de boulangerie complètement différent du conventionnel. Mais c'est vrai que je conçois tout à fait que les gens n'ont pas force... Tout le monde n'a pas envie de se lever à minuit ou à 1h du matin et pour être ouvert à 7h. C'est un point de vue économique aussi.
C'est dans votre tempérament d'être jusqu'au boutiste, parce que pour le peu, vous avez une démarche qui est extrêmement singulière. Tout le monde, lorsqu'il se décide à faire du pain, ne va pas jusqu'à d'abord sélectionner des semences, les transformer dans son propre moulin.
Je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Et en fait, c'est aussi tout simplement donner du sens à ce qu'on fait, quoi. Et non pas pour soi personnellement, mais aussi pour tous les gens qui nous entourent et qui ont envie de faire comme ça, quoi.
Quel est le profil de vos clients?
Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a des gens qui font surtout attention à ce qu'ils mangent, qui n'aiment pas le gâchis, parce que c'est des gens qui vont venir, on fait pas de baguettes, tout est au poids, et c'est un pain qui va se garder la semaine, donc c'est des gens qui vont venir une ou deux fois par semaine, quoi, c'est tout.
Et c'est comment ces pains-là, est-ce que les gens sont curieux, est-ce qu'on pose des questions quand on franchit, parce que si vous avez un fournil qui est en transparence.
Quand ils mettent les pieds la première fois dans la boulangerie, oui, c'est sûr que c'est marrant, ça ressemble pas à une boulangerie où on peut voir où il y a, je sais pas moi, 30, 40 produits. Nous on fait 6-7 pains différents, on fait de la brioche, du croissant, des pains au chocolat, des pépitos, on fait un sandwich. On fait une focaccia, on fait du panettone, et c'est sûr que ça attire. Il faut être curieux. Ouais.
Donc vous maîtrisez en fait chacun des produits que vous faites. Et est-ce que la gamme tourne? Vous faites toujours les mêmes pains?
On a des classiques qui restent, mais c'est vrai qu'on aime bien. Moi, j'aime pas me forcer à faire les choses. En fait, je fais uniquement les choses que j'aime bien ou que les gars aiment bien, et on va pas faire quelque chose qu'on aime pas ou qu'on n'a pas envie de faire, quoi.
Ouais. Oui,
surtout au niveau je parle plus du snack et de la focaccia, on va beaucoup jouer avec la saisonnalité des produits, quoi. On va pas faire des choses qui sont pas de saison, qui sont pas locales.
Donc là en ce moment, qu'est-ce qu'on peut manger comme sandwich chez vous?
Là cette semaine, on a fait dans un pain chocopan, on a fait du butternut pané dans le panko,
ouais.
Avec du fromage à raclette.
Ok. Ah ouais.
Et des oignons et des camps.
Ouais, c'est ouais, je veux dire, c'était l'époque.
C'est ça.
Ouais. Donc brioche, vous m'avez dit, viennoiserie.
Brioche, pain, viennoiserie, chocoupan, panettone. On fait du flan aussi, on fait un beau flan. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a fait de la galette pour la première année.
Ça a marché?
Ça a bien marché, ouais. Des cookies, et puis on fait... voilà.
Est-ce que vous répondez à une certaine demande? Est-ce que les gens viennent vous voir en vous disant « Ah tiens, vous n'avez pas ça et... » Vous n'auriez pas une tarte aux pommes,
Disons qu'on s'adapte dans la mesure du possible si ça nous parle, mais si c'est quelque chose qu'on n'a pas fait et qu'on n'a pas envie de faire, non, on ne le fera pas, quoi.
Aujourd'hui, votre équipe, elle est composée de boulangers ou vous avez embauché aussi un pâtissier ou un tourrier?
Non, alors il y a Maxime qui est tourrier, oui, il y a un tourrier. Ouais. Et sinon, il y a 5 boulangers.
À 5 boulangers aujourd'hui?
Ouais, on est 8 actuellement. Okay. 6 en prod et 2 en vente.
Ok. Donc dans une boutique.
Voilà.
Alors quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des envies d'évolution? Est-ce que
l'envie, oui, mais après je pense que c'est un peu compliqué de refaire ce même projet pour une seule personne. Enfin, de multiplier sur deux
points de vente.
Sur deux points de vente et sur deux points de produ- le point de vente, non, c'est plus sur le point de vue production en fait.
Oui.
Parce que c'est vraiment quelque chose qui est très personnel et je pense qu'il faut être présent pour vraiment que ce soit pareil, quoi.
Vous êtes là tous les jours?
Je suis là tous les jours.
Tous les jours, vous faites du pain?
Tout à fait.
Ouais. Ça, c'est ce qui vous anime.
C'est ça.
Ouais, vous ne vous verriez pas quitter ça pour juste diriger, insuffler une énergie?
Non. Déjà, de passer tout seul à deux ou à trois, c'est compliqué. Là, maintenant, on est 8. Moi, mon job a changé un petit peu. C'est pas la partie que je préfère, mais en même temps, si on veut nourrir les gens et puis faire participer les gens qui ont envie à...
Vous avez accepté de partager.
Voilà, c'est ça. Il faut partager.
Ah non, mais c'est pas facile.
Et c'est pas facile non plus, en fait, dans la démarche que j'ai de déléguer. Ouais. C'est pareil.
Ouais, parce qu'on sent bien, voilà, que vous avez envie de tout maîtriser.
Le maximum, du moins. Ouais.
Non, mais c'est bien. Je pense que ça vous permettra peut-être dans un temps plus ou moins long de passer la barrière de « je suis capable de mettre en place des gens que j'ai formés,
oui, bien sûr,
qui me connaissent bien, qui connaissent bien le produit ». Dans un autre endroit pour permettre à plus de gens. Alors, une question qu'on s'est posée sur la table ronde précédente et que je vous pose, le prix du pain.
Le prix du pain. Alors, notre pain de base est à 8 euros le kilo. Voilà, ouais, c'est un blé de population, ouais, semi-complet. On est à 8 euros du kilo.
Vous avez des réactions par rapport au prix? Parce que c'est vraiment ce qui nous a animé tout à l'heure.
Pour les gens qui ne sont pas habitués, oui, forcément, ça peut paraître plus cher qu'une baguette qu'on va payer, je ne sais pas combien ça coûte, 1,20€ ou 1,40€ peut-être. Mais en fait, si on va acheter 500 grammes de pain, ça va nous faire 3-4 jours. Si on achète une baguette qui pèse, je ne sais pas, 300 grammes, ça va faire la journée, quoi.
Oui, vous, c'est le
rendement. En fait, c'est surtout... Enfin, le prix, ça, je sais pas si c'est vraiment une influence. C'est surtout sur le point de vue, ce qui va nous apporter au point de vue nutrition, quoi.
Ouais, d'où la volonté de moudre la farine,
voilà,
d'obtenir la farine. Vraiment, donc la veille pour le lendemain matin.
Ouais.
Hein, donc c'est la personne qui part le soir qui fait ce travail-là, j'imagine, pour le boulanger qui arrive à 1h30.
Tout à fait.
Ouais. Et les gens qui viennent, une fois qu'ils ont goûté, reviennent, sont convaincus immédiatement, même si certains sont un peu sceptiques sur le prix.
Non, globalement, ça se passe très bien.
Oui, ça se passe très bien, oui. Il n'y a pas ce prix-là, le juste prix du pain.
Quand les gens ont conscience, en fait, de ce qu'ils pourraient avoir en achetant une baguette ou du pain de mauvaise qualité, il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Il faut vraiment que les gens aient conscience de comment ça peut être fait, quoi. À quel point ça peut être mauvais, en fait.
Oui, c'est vrai.
Et pour la santé, et pour l'environnement, et pour l'économie française.
Merci beaucoup, Diego. On va proposer aux gens qui sont présents dans le public de vous poser des questions. Qui voudrait poser une question, vous ? Faut pas hésiter. Hein. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Diego ? Pas de questions ? Bon. Eh bien, merci, monsieur.
Oui, bonjour. C'était juste pour parler un peu de vin. Du coup, tu utilises un levain liquide, dur ou
le vin dur, plusieurs le vin dur de blé sur la 65.
Ouais. Et après, tu en as pour ton seigle et...
On utilise uniquement le même levain pour tous les pains, quasiment. Et pour ce qui est panettone et choucoupane, c'est du levain de panettone.
Ok.
Merci. Autre question ? Bon, eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous invite... à applaudir Diego pour le remercier d'être venu échanger avec nous cet après-midi. Diego Laporal, Pain Vivant à Caen. Merci beaucoup, Diego.
Merci à vous.